Le monde d'Ulysse avec Kevin Gilbert sur Radio Grand Ciel. Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Le monde d'Ulysse sur Radio Grand Ciel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un personnage un peu décrié, Philippe II de Macédoine. Alors certes, moins célèbre et surtout, comme je viens de l'évoquer, plus décrié que son successeur et fils Alexandre, dit le Grand, Philippe II reste néanmoins un personnage majeur de la fin de cette période classique. Il accède au pouvoir dans des conditions dramatiques à l'âge de 22 ans en 360 avant Jésus-Christ. L'armée macédonienne est anéantie, le roi, son frère, est mort durant une bataille face à la puissance de l'armée illyrienne, des provinces du pays sont occupées et tous les ennemis de la Macédoine fondent sur un royaume en proie donc aux dissensions et dans le but un petit peu de le dépecer. Un quart de siècle plus tard, lorsque Philippe II meurt, à son tour assassiné, tout comme son père, le royaume qu'il lègue à son fils Alexandre III est la plus grande puissance du sud européen. Donc aujourd'hui, notre intérêt va essentiellement se porter sur ses conquêtes, mais aussi sur ses réformes militaires, même si, je le précise dans cette introduction, ses réformes administratives, alliant centralisation du pouvoir, appui sur les élites et puissances locales, ont aussi largement contribué à la modernisation de l'État macédonien. Donc notre ami Philippe II de Macédoine est l'un des trois fils du roi Amintas III de Macédoine et d'Eurydice. Par son ancêtre légendaire, Caranos, sa dynastie, donc qui porte le nom des Argéades, descendrait d'Héraclès. Alors l'ascendance divine est un élément assez courant pour la propagande chez les monarques antiques, et on le voit aussi également chez les aristocrates romains, là je pense notamment à César qui descendrait de la non moins célèbre Vénus. Donc troisième fils d'un roi, donc rien ne le destinait à accéder au trône. Mais en 370, son père est assassiné. C'est son frère aîné, donc Alexandre II, qui est proclamé roi de Macédoine. Donc celui-ci va intervenir dans un conflit en Thessalie, donc région voisine de la Macédoine, mais il ne parvient pas à s'imposer. Donc il doit se résoudre à accepter une alliance avec la cité de Thèbes, Thèbes qui est la puissante cité qui va dominer la Grèce continentale, au détriment d'Athènes et surtout de Sparte. Donc cette alliance est scellée par l'envoi du jeune Philippe comme otage dans la cité de Thèbes. Donc en 368 avant Jésus-Christ, alors qu'il n'est âgé que de 14 ans, Philippe est donc envoyé en otage à Thèbes, en Béotie. Donc bien traité, hein, c'est un otage tout de même de marque, un otage royal, il reçoit donc une éducation, et notamment une éducation militaire auprès du fameux Epaminondas, donc le général le plus brillant de son époque, le fameux vainqueur de Leuctre, bataille dont nous avons évoqué lors d'une précédente émission. Donc il va y rester durant 3 ans, donc jusqu'à l'âge de 17 ans, donc jusqu'en 365. Donc de retour en Macédoine, Philippe prend le pouvoir à la mort de son frère, donc le deuxième frère, Perdiccas III, en 359 avant Jésus-Christ. Donc comme le veut la tradition et la coutume de l'époque, il épouse la veuve de celui-ci. Et au cours de l'été 360, il est désigné, ou se proclame, on a une petite variation dans les sources, comme tuteur de son neveu, donc le fils mineur de Perdiccas, Amintas IV. Donc petit à petit, on va s'en douter, il va l'écarter du pouvoir et se faire proclamer lui-même roi, donc par l'assemblée du peuple macédonien. Donc au moment de son avènement, donc Philippe n'a que 23 ans, donc il est relativement jeune. Et il se trouve face à une situation très difficile. En effet, il récupère le royaume de Macédoine dans un état un petit peu critique, un petit peu même, on pourrait dire, pitoyable, puisque la survie du royaume est menacée donc, par les Illyriens. Donc les Illyriens, pour vous situer, c'est la région qui correspond à peu près à la Croatie actuelle, mais aussi par les Péoniens, les Ordices, donc des peuples de la Thrace, donc l'actuelle Bulgarie, donc des voisins de la Macédoine, ainsi que par les Athéniens. Donc tous ces peuples, donc tous ces états, ont avantage à affaiblir effectivement le royaume de Philippe. Donc Philippe est donc à la tête d'un état menacé de toutes parts par les puissances voisines, fragilisé par des rivalités politiques internes, et bien qu'à cela ne tienne, puisqu'il commence par éliminer ses rivaux potentiels, dont le prétendant Argaios, qui est soutenu par Athènes en 360. Il doit ensuite se résoudre à accepter la suzeraineté des Illyriens, notamment celle du roi Bardylis, et dont il épouse la fille en seconde noce, Odata. Donc c'est Odata, la deuxième épouse. Il conclut également un traité de paix avec Athènes, à qui il laisse les mains libres à Amphipolis. Donc Amphipolis, c'est une colonie athénienne, un petit peu rebelle, qui jouissait d'une certaine autonomie. Et Philippe et donc le royaume de Macédoine avaient plutôt intérêt à avoir une cité autonome à ses frontières plutôt qu'une cité soumise à Athènes. Et cette cité, donc cette colonie à l'origine d'Athènes, dont la localisation sur les côtes de Thrace est d'une importance stratégique majeure puisqu'elle permettait notamment le contrôle des ressources minières et aurifères de la région. Donc afin de renforcer la position macédonienne, Philippe va lancer une fameuse réforme, ça va être celle de l'armée. Effectivement, quand il prend la tête de l'État, il a eu l'expérience avec notamment son frère. L'armée macédonienne est un petit peu en décrépitude, elle a été vaincue, plus ou moins anéantie par les Illyriens. Alors il va commencer par augmenter le nombre de fantassins, et notamment créer un bataillon d'élite, les hypastistes, alors qu'il va être calqué sur le modèle du bataillon sacré à Thèbes, qu'il a pu observer lors de sa captivité. Et il va donner à cette armée un entraînement strict et surtout un armement qu'il va repenser. Et ça va être là le succès des armées macédoniennes dans le futur. Ça va être justement, tout découle de cette réforme de Philippe. Le soldat macédonien reçoit un armement déjà défensif, donc l'armure, les cnémides, donc ce sont les protèges tibia, et un bouclier, donc jusqu'ici rien d'innovant. Mais l'innovation, elle est là, c'est sur le poids. L'équipement va être beaucoup plus léger que celui de l'hoplite, dont l'ensemble pèse environ entre 35 et 40 kilos. Hein. Donc cela permet de pouvoir équiper déjà bien plus de soldats pour un coût beaucoup moins cher puisque le matériel de base, c'était le bronze, donc un matériau quand même qui n'est pas donné. Sans porter non plus à une atteinte à la qualité de ses troupes. Donc avec une même somme, il va pouvoir équiper une armée beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus nombreuse. Et en effet, donc l'allègement des armes permet donc de charger déjà beaucoup plus vite et en formation très compacte. Et la puissance de la charge des Macédoniens est alors décuplée, d'autant que la masse de tous les soldats se cumulant donc à la fois la formation très serrée. Donc concernant aussi l'armement offensif, Philippe dote les fantassins donc d'une longue pique, d'une très longue lance de 7 mètres de long environ, qu'on appelle la Saris. Alors établissant ainsi les fondements donc de la célèbre phalange macédonienne, donc les phalangites se déploient donc sur 16 rangées de profondeur, et les 5 premières seulement tenaient donc les gigantesques lances donc à l'horizontale, et les 11 autres rangs de derrière la tenaient à la verticale. Donc ça formait vraiment quelque chose d'une sorte de hérisson ou de porc-épic géant, on pourrait dire. Hein. Donc cette haie impénétrable de lances permettait de briser les assauts, déjà, et permettait aussi de donner un avantage d'infanterie décisif aux armées macédoniennes. Et ce système est tellement efficace, d'accord, puisque les armées macédoniennes puis hellénistiques vont continuer à utiliser ce système pendant près de 3 siècles, donc jusqu'à l'arrivée des Romains dans la région. Donc déjà, premier petit bilan, Philippe prend la tête d'un royaume et qui est dans une situation très compliquée, il est obligé de se soumettre aux Illyriens, traiter un pacte avec Athènes. Mais grâce à cette réforme militaire, c'est ce qui va notamment lui permettre justement de renforcer dans un premier temps l'État macédonien. Philippe estime que la Macédoine doit lutter contre la menace des peuples voisins, dans un premier temps, les Thraces et les Illyriens. Donc à la tête de cette armée qu'il a lui-même réformée, Philippe affronte et vainc d'abord les Péoniens, donc tribus de Thrace, qui menaçaient le nord du royaume de Macédoine. Donc printemps 358 avant, il remporte une grande victoire ensuite sur les Illyriens. Donc Bardylis, donc le roi qui le tenait un petit peu en laisse et avec qui il avait donné en mariage sa fille à Philippe, donc est tué et ses troupes sont massacrées. Donc la frontière avec l'Illyrie est repoussée, donc Philippe va commencer par grignoter une partie du territoire illyrien. En Haute-Macédoine, Philippe impose son autorité en éliminant les dynastes aristocrates locaux, en les obligeant à s'installer donc à Pella, donc la capitale du royaume. Automne de la même année, il intervient donc une fois de plus en Thessalie, à l'appel de la cité de Larissa, et il épouse en troisième noce donc une princesse thessalienne. Donc, première action de Philippe, ça va être d'abord au niveau de ses voisins pour pacifier la région et éliminer les menaces grandissantes. Donc Philippe ne souhaite pas seulement que son royaume soit une puissance terrestre, hein, comme on aurait pu le penser avec cette réforme de la phalange macédonienne, mais il veut aussi se doter d'une grande façade maritime. Alors, ce qui va être compliqué dans un premier temps, puisque la Macédoine n'a qu'un accès limité à la mer Égée. Alors, il se tourne donc vers l'est et occupe donc la région de ce qu'on appelle la Chalcidique, donc c'est le petit trident qui tend vers la mer dans la région de Thessalonique actuelle. Il s'empare au passage de cités qui sont des colonies ou des alliés d'Athènes, comme notamment Amphipolis, qu'il assiège en 357, Pydna et ainsi que Potidée. Alors d'après l'orateur et historien Théopompe, donc là on est dans l'hypothèse hein, bien évidemment, hein, il serait probable qu'un traité secret ait été signé et lié en tout cas Philippe II à Athènes, puisque ce fameux Théopompe nous explique que Philippe doit prendre la ville d'Amphipolis pour le compte des Athéniens. Mais il y a un renversement de rapport de force net, hein, souvenez-vous, par rapport à la situation de 359, dans un premier temps, où Philippe laissait les mains libres à Athènes, et là maintenant c'est Athènes qui demande à Philippe de conquérir la ville. Mais ce rapport de force est retourné, d'autant plus que Philippe ne tient pas sa promesse et conserve la cité pour son propre compte. Souvenez-vous de sa situation stratégique en tant que débouché sur la mer. Donc en 354, Philippe va continuer sa conquête des cités voisines, notamment sur la cité de Crénides, sur l'île de Tassos, Tassos, île du nord de l'Égée, et surtout de ses mines d'or, ce qui n'est pas négligeable pour financer une guerre. Hein. Le nerf de la guerre, après tout, c'est bien l'or. Il arrache également aux Athéniens la cité de Métone, sur le golfe Thermaïque, donc malgré l'envoi d'une flotte par Athènes. Donc cette bataille, je vous l'évoque, parce que c'est durant cette bataille que Philippe va perdre son œil. Ce qu'on voit souvent sur les portraits, donc c'est Philippe II, ou parfois on l'appelle Philippe le Borgne. Hein, donc c'est durant cette bataille qu'il va perdre son œil, ce qui va faire son succès. Et enfin, il prend Abder, donc près de l'embouchure de Nestos et de Maronée, sur la côte Thrace. Donc Philippe a donc un plan bien en tête, hein, réformer administrativement, réformer l'armée, et enfin avoir un débouché sur la mer, et là au détriment de sa rivale Athènes. Sur Radio Grand Ciel, où vous écoutez Le Monde d'Ulysse, votre émission consacrée aujourd'hui à Philippe II de Macédoine, ou Philippe II le Borgne. Donc après un renforcement de ses frontières et la soumission de ses voisins, notamment illyriens, Philippe étend son action en Grèce. Donc il intervient notamment dans la troisième guerre sacrée, à l'appel de Thèbes et de la ligue thessalienne. Alors cette guerre sacrée se déroule entre 355 ou 357, en fonction des sources, et va perdurer jusqu'en 346, et se conclut par la victoire militaire de Philippe. Donc une guerre sacrée, qu'est-ce que c'est ? C'est un conflit qui est déclenché par ce qu'on appelle l'amphictyonie de Delphes, c'est-à-dire le regroupement de cités indépendantes, telles que Athènes, Thèbes, etc., qui sont chargées de l'administration du sanctuaire de Delphes, car je le rappelle, Delphes est un sanctuaire panhellénique, donc qui concerne toutes les cités de Grèce. Donc Thèbes, alors à cette époque, à la tête de l'Amphictyonie, hein, car je vous le rappelle, Thèbes est la cité la plus puissante et donc se retrouve à la tête de l'Amphictyonie, traduit les Phocidiens, donc peuple de Grèce, en justice, et ces derniers s'étant installés dans la plaine de Chryssa, et au sacrilège, ils cultivent des terres sacrées consacrées aux dieux, ce qui était interdit. Alors il fut alors condamné à payer une amende. Et refusant de s'acquitter de cette somme, de cette amende, les Phocidiens s'emparèrent alors de Delphes en 356. L'année suivante, l'Amphictyonie réplique et déclare la guerre. Donc après avoir connu quelques échecs, les Phocidiens, donc sous la conduite du stratège Onomarque, parvinrent à vaincre leurs rivaux et surtout vont réussir à étendre leur sphère d'influence jusqu'à la Thessalie. Et donc la ligue thessalienne et Thèbes, effrayée hein, par cette montée en puissance d'un nouvel acteur, l'acteur phocidien, vont faire appel à Philippe II. Alors ce dernier, après avoir été vaincu au cours de deux batailles par le fameux Onomarque, donc en 353 avant Jésus-Christ, va parvenir à reprendre l'avantage l'année suivante, donc notamment à la fameuse bataille des champs de Crocus. Donc le stratège phocidien va d'ailleurs trouver la mort durant ce conflit. Alors pour rentrer un petit peu dans le détail, hein, pour montrer un petit peu la personnalité aussi de Philippe II, eh ben, il va faire crucifier le cadavre du stratège vaincu, hein, ça là, jette un petit peu un message aux autres comme ça, et fait jeter à la mer plus de 3000 prisonniers phocidiens, donc châtiment qui était réservé justement au sacrilège, hein, car une guerre sacrée c'est surtout une guerre à nature religieuse. Donc dans la foulée il va s'emparer donc se faire élire à la tête de la ligue thessalienne qu'il avait appelée à l'aide, et alors qu'il va poursuivre les phocidiens, il est arrêté dans le défilé des Thermopyles, et ben à votre avis par qui? Par une coalition athénienne et spartiate, alliée à la ligue achéenne. Mais malgré cet échec, Philippe a marqué les cités grecques par sa puissance et les menace désormais directement. Donc à partir de 352, Philippe reprend la politique d'expansion de son royaume vers le nord-est et se tourne à nouveau vers la Thrace, donc Thrace divisée en trois royaumes. Et donc ce mouvement va menacer directement les intérêts athéniens qui étaient notamment présents dans l'espace de la mer Noire, avaient fondé des colonies quelques siècles auparavant, eh bien, afin de s'approvisionner en blé. Donc menace pour Athènes, puisque les Cléroukis, donc les colonies militaires d'Athènes et les cités de Chéronès soumises à Athènes, eh bien, ne vont plus pouvoir, si Philippe II s'en empare, approvisionner la cité. Donc Athènes va d'abord voter l'envoi d'un contingent massif, mais ils vont s'abstenir puisqu'on a une nouvelle qui parvient dans la ville. Philippe II est atteint de maladie, ce qui les dissuade d'envoyer un contingent, mais bon, cette nouvelle est exagérée, hein, et à tort, ils ne vont pas envoyer le fameux contingent qui aurait pu mettre à mal le plan de Philippe. Donc alors que les cités grecques l'ont tenu, entre guillemets, on pourrait dire pour quantité négligeable, hein, une petite puissance, certes qui monte un peu en puissance, mais une puissance périphérique, et bien désormais, notamment par sa victoire lors de la Troisième Guerre Sacrée, elles vont le craindre. Et c'est le moment où justement le fameux orateur grec Démosthène va composer sa première philippique. Et dans ce discours, Démosthène présente Philippe donc comme un barbare, comme un ivrogne. Et cette image de propagande va rester ancrée dans l'idée des Grecs, et même au-delà, puisque ce sera l'image que nous autres Européens, jusqu'au XIXe siècle, on va avoir de Philippe. Un roi brutal, un barbare, hein, et ça va donner donc qui vient de Grèce du Nord, hein, donc de pays ô combien peu civilisés et adeptes de la boisson. L'affrontement avec Athènes va devenir, comme vous pouvez vous en douter, inévitable, puisque la domination macédonienne, donc en chalcidique, n'est pas assurée, alors que la puissante ligue justement chalcidienne, va dominée par une cité voisine, Olynthe, s'oppose à lui et va s'allier à Athènes. Donc, été 349, donc Démosthène, orateur athénien, prononce donc la première des Olynthiennes afin d'encourager Athènes à soutenir militairement cette ligue chalcidienne. Donc, de son côté, Philippe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encourager donc l'Eubée, la grande île voisine d'Athènes, à faire quoi? Se révolter contre la cité. Donc, afin d'entraver Athènes dans ses possibilités d'envoyer des contingents soutenir Olynthe. Donc, dès lors, il peut s'en emparer facilement de ces rebelles. Donc, en 348, donc Olynthe, ne pouvant être soutenue par Athènes, sont entièrement rasés, leurs habitants vont être vendus comme esclaves, et donc à partir de là, la Chalcidique devient définitivement macédonienne. Alors je vais faire une petite parenthèse très rapide sur la cité d'Olynthe, puisque Olynthe elle va être rasée, mais surtout elle ne sera jamais reconstruite. Alors ce qui pour l'archéologie va être très important, puisque ça va faire un petit peu état de témoin de ce qu'était une cité grecque de cette fin d'époque classique. C'est vraiment une cité au niveau de son plan qui va rester totalement dans son jus, ce qui nous permet justement de comprendre un petit peu les dynamiques spatiales d'une cité de la fin du IVe siècle. Donc jusque-là, que ce soit donc par l'intermédiaire d'Olynthe ou de pour Athènes ou de Leubé pour Philippe. Donc on voit que l'affrontement entre Athènes et la Macédoine est surtout entre guillemets, on pourrait dire, par alliés interposés. Donc on est dans une pas une guerre froide, mais en tout cas une guerre tiède. En tout cas, on n'a pas d'affrontement direct entre Athènes et la Macédoine sur le champ de bataille. Mais en 346, ça va un petit peu s'accélérer, hein, puisqu'on a l'orateur athénien, donc Eubule, qui même plus que ça, le dirigeant, hein, c'est le politicien qui a le vent en poupe. Mais lui, est un Athénien pro-macédonien, donc à l'inverse de son rival Démosthène. Et bien, il va envoyer à Pella une ambassade afin de négocier une trêve. Donc ce traité, paix de Philocrate, donc du nom d'un des trois ambassadeurs athéniens, donc va former une sorte de statu quo territorial, où Athènes reconnaît la domination macédonienne en Chalcidique et abandonne donc la région de Phocide. Donc la même année, à Athènes, donc Isocrate accueille favorablement cette paix et va écrire un discours politique, donc Philippe, dans lequel il s'adresse directement au roi de Macédoine, donc l'invitant, surprenant, à réaliser l'union des cités grecques et à faire la guerre donc à la Perse voisine, concrétisant ainsi un petit peu une sorte d'idéal qu'on pouvait entrevoir au début de l'époque classique, une sorte d'idéal panhellénique contre un ennemi commun, la puissance voisine perse. Donc Eubule et Isocrate, donc ces deux Athéniens, incarnent en quelque sorte un courant pro-macédonien qui va se répandre parmi les élites intellectuelles et surtout politiques d'Athènes. Donc en 342, toujours avant Jésus-Christ, Philippe va faire de la Thrace une province macédonienne. Tiens, donc il avait déjà commencé par la Chalcidique, maintenant la Thrace, et il va y fonder plusieurs cités. Donc cette volonté d'implantation macédonienne donc en Grèce du Nord va provoquer des révoltes, hein, notamment celle de Byzance, soutenue par Athènes. Donc en 341, Démosthène prononce donc sa troisième philippique pour convaincre les Athéniens finalement à réagir pour de bon et à intervenir militairement et d'entrer en guerre donc contre Philippe. Alors là, à partir de ce moment-là, lors de la troisième philippique, Démosthène va pour une fois réussir à convaincre son auditoire, et l'affrontement direct entre Philippe et Athènes apparaît comme inévitable. À partir de cette année 341, Athènes et Philippe vont entrer en conflit direct, et cette période va permettre aussi à Philippe, je ne vous le cache pas qu'il va sortir victorieux, d'étendre son hégémonie sur la Grèce. Donc comment a-t-il pu s'y prendre? Donc en 338, donc le conseil amphictyonique de Delphes, donc à l'initiative d'Échine, va décider là d'une quatrième guerre sacrée contre une cité, la cité de Locride, accusée d'avoir cultivé donc une fois de plus une terre sacrée réservée aux dieux. Donc là, Philippe y voit, souvenez-vous hein, de son expérience lors de la troisième guerre sacrée, il y voit l'occasion de pousser un peu plus son influence en Grèce centrale. Donc troisième guerre sacrée, il va marquer les esprits. Là, quatrième guerre sacrée, là, il va carrément marquer le territoire. Alors, il va carrément directement surtout se faire accorder la tête de l'expédition, va détruire la cité rebelle, va progresser même vers Phocide en Béotie, et il va se rendre jusqu'aux portes de l'Attique. Donc face à cette menace, donc la cité, les cités rivales de Thèbes et d'Athènes vont finir par s'allier. Hein, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, vous connaissez le dicton. Hein. Donc en août 338, donc les armées de Philippe et de son jeune fils Alexandre, qui va se voir confier la cavalerie, vont battre les troupes coalisées donc à la fameuse bataille de Chéronée. Et cette victoire de Chéronée va accorder et assurer l'hégémonie en Grèce de Philippe. Donc Athènes va subir des pertes considérables, notamment un millier d'hommes, et plus de 2000 prisonniers. Elle est contrainte de signer donc une paix, donc la paix dite de Démade, et d'intégrer une coalition macédonienne, et d'accorder surtout à Philippe la citoyenneté athénienne. Donc honte suprême et sacrilège suprême reçue pour l'envahisseur. Donc elle peut néanmoins conserver sa flotte. On pourrait dire que c'est surprenant, mais Philippe a une idée derrière la tête, puisqu'il songe se servir de cette flotte contre les Perses. Donc par contre, Thèbes va être plus sévèrement puni, étant donné que c'est la cité la plus puissante. Hein. Donc la cité est occupée par une garnison macédonienne, donc la ligue qu'elle dominait, la ligue de Béotie, va être dissoute. Et en 337, Philippe réunit les cités grecques lors d'un congrès, le congrès de Corinthe, et va fonder la ligue de Corinthe, ou la ligue des Hellènes. Alors, durant ce congrès, il est fait interdiction aux cités grecques de se battre entre elles, chose inédite, mais elles conservent leur autonomie, leurs institutions propres. Donc Sparte, la Crète et les cités de grande Grèce, donc d'Italie et de Sicile notamment, vont rester neutres et n'entrent pas dans cette ligue. Donc cette ligue de Corinthe est avant tout et surtout une sorte de ligue militaire hein, pour Philippe. Et cette ligue de Corinthe, donc fondée en 337, va devenir rapidement donc l'alliance militaire qui va lui permettre de finaliser l'invasion de l'Asie mineure, qui est sous tutelle des Perses. Alors, le prétexte étant de venger la profanation des sanctuaires grecs et notamment l'acropole d'Athènes lors des guerres médiques des années 490 et 480, et aussi, je dis bien, je précise entre guillemets, de libérer les cités grecques d'Ionie et de Lydie. Alors, Philippe fait appel au début de l'année 336 donc à ses deux généraux de confiance, hein, ses deux bras droits, hein, Parménion et Attale, pour diriger un corps expéditionnaire donc en Asie mineure. Alors, il profite de ce moment, puisque l'Empire perse est affaibli à la mort du grand roi Artaxerxès III. Donc, à la tête de 10 000 hommes et aidé par les cités d'Éphèse et de Cyzique, donc deux cités d'Asie mineure, donc Parménion remporte plusieurs victoires, alors comme à Magnésie du Méandre, mais après quelques revers, donc cette première campagne est quand même mitigée, hein, elle va être couronnée, donc à part à ses débuts, à cette victoire de Magnésie du Méandre, de très très peu de succès. Et aussi, surprenant, rares sont les cités grecques qui se déclarent en faveur des Macédoniens. Donc le côté panhellénique, tous derrière la bannière de la Macédoine, n'a pas encore pris. Hein. C'est encore quelque chose d'un petit peu un peu trop frais pour les cités grecques soumises à un royaume du Nord. Barbare qui plus est. Donc, nous sommes en 337, mais l'année 336 va être l'année de la brutalité pour Philippe, puisqu'il va être assassiné donc par un de ses gardes du corps, appelé Pausanias, dans le théâtre d'Aigai, où il célèbre ses victoires donc à l'occasion du mariage de sa fille Cléopâtre avec Alexandre dit le Molosse, roi des Pires et frère de sa troisième épouse Olympias, donc la mère d'Alexandre. Alors cet assassinat a peut-être été commandité par les Perses ou, autre possibilité, par Olympias elle-même, donc la troisième femme, pour assurer l'accession au trône d'Alexandre. Donc là, on n'a pas de preuves qui viennent corroborer l'une ou deux de ces hypothèses. Pausanias, le problème étant effectivement immédiatement tué hein, et démembré dans des circonstances dont je vous laisse deviner, imaginer. Même si Plutarque mentionne une lettre adressée par Alexandre au roi Darius, dans laquelle il blâme justement le grand roi de cet assassinat, juste un peu de temps avant l'expédition d'Alexandre en Perse. Donc, la mort de Philippe ne va rien changer au plan d'invasion, hein, puisque Parménion fait allégeance, donc Parménion, souvenez-vous, le bras droit de Philippe va faire allégeance à Alexandre, donc qui rejoint le corps expéditionnaire donc à Abydos en mai 334. Pour dresser un petit bilan de ce règne, donc par sa politique d'expansion, Philippe est parvenu à tripler la surface de son royaume, en annexant donc la Haute Macédoine, des territoires situés à l'est, donc dont la Thrace et la Chalcidique. Il entreprend aussi donc dans ce contexte de profondes réformes administratives, en mêlant institutions traditionnelles macédoniennes à celles de la Ligue Chalcidienne, qu'il avait réussi à soumettre et dont il avait été nommé chef. La Macédoine est ainsi divisée en quatre grands districts régionaux ou mérides, donc autour de communautés civiques, donc des cités ou des ethnées. Alors là, le principe d'ethnée, je pourrais pas m'étendre sur le sujet, mais on n'est pas dans le principe, on est dans un principe un petit peu différent. On est plutôt dans le côté de la tribu plus que de la cité en elle-même, cité qui est le format un petit peu, comment dire, administratif et politique un peu plus courant dans les cités. Comme Athènes ou comme à Sparte. Donc l'équipement, surtout, et la tactique de l'armée macédonienne donc, vont connaître des améliorations décisives qui vont servir donc, à cette domination militaire, mais aussi de levier social pour des couches moyennes, puisque les carrières vont être beaucoup plus rapides, beaucoup plus fulgurantes, et on va pouvoir accéder à des statuts d'officiers beaucoup mieux rémunérés. Donc, chose dont on parle très peu aussi dans cette émission, ça va être sur les arts. Les arts connaissent aussi un formidable essor, comme en témoigne notamment, je vous invite à regarder par vous-même, hein, les fameuses tombes royales, donc dans l'actuelle Virginia, donc en Macédoine, qui montrent aussi son attachement donc, à ce qu'on appelle à la sagesse grecque, puisque en accueillant notamment Aristote à la cour de Pella. Donc finalement, Philippe a posé les jalons et a forgé l'outil politique et militaire qui va permettre donc à Alexandre le Grand, son fils et successeur, de conquérir l'immense empire perse et de faire de la Macédoine une puissance hégémonique donc durant la fin de l'époque classique et surtout durant l'époque hellénistique.
Thank you.